Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 29 mars 96.
Hier à essayer de comprendre comment le travail, la transformation de la matière est quelque chose de fondamental dans notre vie. Du travail, qui est l'expérience première dans le sens du fondement, dans le sens où progressivement l'homme acquiert développer lui-même. C'est ça qu'il y a de plus net dans le travail. Et au plan philosophique, on commence par la philosophie de l'art, de l'activité artistique, qui fondamentalement implique le travail. Transformation de la matière et du monde dans lequel on se trouve, du milieu dans lequel on est. Et quand on arrive au terme de la philosophie, de la métaphysique, avec le je suis, se découvre de plus en plus dans le travail que nous faisons. Le je suis dans son autonomie qu'il acquiert. Oui, le travail conduit à une œuvre qui est notre avoir. Alors, ce qu'il faut, c'est comprendre cette dimension du travail à tous les niveaux pour bien saisir l'importance de cette activité tout à fait première, tout à fait caractéristique de l'homme, puisqu'il naît dans le monde. Il naît, j'allais dire, dans un milieu où le travail est fondamental. On parle du travail, de la gestation, de la mère qui porte son enfant. C'est le travail premier de la nature humaine. Et on est formé dans ce milieu. Tu m'as tissé, la parole du psaume ce soir. Alors c'est Dieu qui... C'est dans un regard religieux. Mais c'est juste, c'est très juste, c'est de voir que notre corps est le fruit d'un labeur. D'un labeur naturel. Mais d'un labeur substantiel. Et nous sommes nés, nous sommes formés dans ce labeur. Nous sommes le fruit de ce labeur. Puis, nous-mêmes, nous sommes source d'un labeur, acquiert son autonomie à travers ce labeur et dans ce labeur. On en a tout à fait conscience quand on est en présence de certaines nouveautés qui s'imposent à nous, mais que nous n'avons pas élaborées. On est comme un étranger devant cela. Quand au contraire, nous l'avons nous-mêmes élaboré, c'est notre œuvre, c'est notre bien, ça fait partie de notre rayonnement, de notre gloire. Le travail le plus élémentaire, le plus artisanal, c'est très significatif ça. Vous voyez, c'est une des premières distinctions que nous faisons entre le jeu et le travail. Quand l'enfant n'est pas encore capable de travailler, il joue. Mais jouer, c'est déjà une manière d'acquérir une certaine autonomie. Le jeu fait partie d'une éducation pour acquérir une certaine indépendance dans le milieu dans lequel on est. Et on passe du jeu au travail. Et pour rendre le travail plus agréable, on le met selon une modalité de jeu. C'est très significatif cela. Parce qu'on sait que le labeur, le travail, implique quelque chose de sévère, de lutte. On lutte avec une réalité extérieure à nous qu'on doit transformer. Dans le jeu, on n'a pas une matière extérieure qu'on doit transformer. C'est nous-mêmes qui devons jouer un rôle qu'on se donne. Donc il y a une immanence dans le jeu qu'on n'a pas dans le travail. Alors c'est peut-être cet aspect-là qui est le plus net dans la perspective de la personne humaine et le travail. C'est que par le travail, j'acquiers une certaine autonomie. Il y a l'autonomie fondamentale que nous avons découvert au point de départ, en comprenant que notre âme spirituelle implique cette autonomie et nous donne cette autonomie. Il y a, dès le point de départ, par notre âme spirituelle, une certaine autonomie dans l'ordre de l'être. Notre « je suis » est distinct de tous les autres. Mais il y a aussi, et nous avons cessé de le dire, il y a aussi une conquête de la personne. Nous devenons de plus en plus personnels et individuel, plus nous avançons. Ce qui permet du reste d'être de plus en plus donné. Si vous n'avez aucune autonomie, vous ne pouvez pas vous donner. Vous êtes un être passif. Va comme je te pousse. Et on n'a pas d'autonomie et on ne se donne pas. prend la responsabilité d'édifier une communauté. On est passif. On est novice. Alors on bâtit. On respecte. On découvre. Mais on bâtit. Quand on prend certaines. Quand on acquiert une certaine personnalité, l'autonomie grandit. Et on est beaucoup plus capable de se donner. Le travail augmente notre autonomie et permet à notre autonomie de conquérir tout un milieu de vie. Et par là, de faire que nous avons une stabilité plus profonde. Et c'est en ce sens-là que les psychologues notent que tant qu'on travaille et qu'on est capable de travailler, il y a un équilibre, un réalisme. Et c'est vrai, le réalisme de notre autonomie s'acquiert par le travail. Par le travail manuel, c'est très net. Par le travail manuel, on voit le résultat là, immédiat. On vit dans un monde qui est notre monde. Par le travail manuel, on a changé le lieu dans lequel on était. On l'a modifié. Et du fait même qu'on l'a modifié, il est nôtre. Cette salle de cours dans laquelle on est maintenant, on ne l'a pas beaucoup modifiée. C'était pas fait pour ça. C'est évident. C'était un dortoir. Donc c'est plutôt l'inverse que la salle du cours. Et il reste quelque chose de cela. Tandis que si on fait une salle de cours, elle est nôtre. Elle est faite pour cela, d'une conquête. Et ceux qui l'ont fait sont fiers de faire une salle de cours, un lieu propre à cela. Vous voyez, et c'est là où on touche bien l'architecture architectonique, qui est l'art des arts. Pour les anciens, c'était ça, la conquête du milieu. Et la conquête du milieu, c'est quand même quelque chose de très grand au point de vue de notre autonomie. Quand on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas, arriver au noviciat, et quand ce milieu est déjà assez nombreux, on est un peu isolé et on ne sent pas beaucoup son autonomie. Obéit à la cloche sans trop bien savoir comment la cloche est reliée à Dieu. Il y a un ange qui descend régulièrement comme à la piscine de Bethsaida et qui sonne pour dire voilà la volonté de Dieu maintenant. Et vous subissez votre autonomie profonde. C'est marqué que ça fait partie du noviciat. Au noviciat, on réduit l'autonomie. Hein. Et on va de plus en plus loin. Et on accepte cela. On est passif. Et ça fait partie d'une ascèse qui est quelquefois très dure pour quelqu'un qui a déjà acquis son autonomie, qui a gagné sa vie, qui a son milieu. Tout ça progressivement. Alors, je crois qu'il y a première dans cette vision de la personne et du travail. La première chose à saisir, c'est que l'homme est capable réaliser son milieu. Vous voyez, c'est la vision de Platon quand il compare le petit enfant de l'homme qui est complètement dénué de tout pouvoir, de toute autonomie et qui dépend totalement du milieu maternel. À la différence du petit animal qui très vite a son autonomie. À tous les points de vue. Et Platon dit, c'est là où on saisit la nécessité de l'art. Moi, je dirais, c'est là où on saisit la nécessité d'acquérir son autonomie. Ça s'acquiert. Et ça s'acquiert par le travail. Vous voyez, c'est la noblesse du travail, ça, qui nous permet d'acquérir notre autonomie. Autonomie vitale, biologique. On construit sa maison. On construit une salle de cours. Pour qu'on soit davantage chez soi. Et ainsi de suite. Vous voyez, quand on arrive sur un terrain désertique où il n'y a rien, la première chose qu'on fait, c'est d'essayer de trouver un lieu, un abri à l'égard des bêtes sauvages. Et le moyen d'écarter les bêtes sauvages, on fait du feu. On veut acquérir une autonomie. Et cette autonomie qu'on acquiert fait partie de notre rayonnement vital. Notre vie biologique est liée dans son épanouissement au travail manuel. C'est du reste, je crois, une des raisons pour lesquelles le moine doit travailler manuellement en raison de la pauvreté. Il ne vit pas d'un patrimoine qui est le capitaliste. Il accepte de tout quitter pour tout reprendre. Et le noviciat, c'est justement ce fait de ne plus rien avoir. On n'est plus lié à sa famille. Parce que celui qui reste toujours lié à sa famille n'a pas d'autonomie vitale. Il vit de paponne et de l'argent de papa. Et il ne sait pas ce que c'est que le travail. Il y a quelque chose qui lui manque. Il n'a pas acquis cette autonomie vitale. C'est très important, ça. De saisir que le travail est lié à notre autonomie. Et nous permet d'acquérir une autonomie vitale. Alors prenez ensuite un travail qui va impliquer non seulement de réaliser les choses indispensables à notre vie, l'abri, la maison, le lieu où on peut vivre et dormir, et manger. Mais l'acquisition d'un milieu de culture. Nous en avons besoin psychologiquement. Un milieu où notre affectivité passionnelle pourra se détendre. Il pourra se détendre en découvrant un certain lien de confiance avec ceux qui sont avec nous. Il y a tout un devenir qui nous permet d'acquérir la confiance de l'autre. Ça se fait quelquefois inconsciemment, mais il y a quand même un certain travail affectif là. Vous voyez, n'est pas une affectivité purement passionnelle. C'est une affectivité d'accueil. On accueille l'autre. Et la première initiative dans cette conquête, c'est d'accueillir l'autre. L'agressivité à l'égard de l'autre fait juste l'inverse. Il y a la place de faire autour de nous un milieu affectif aimant où on pourra se reposer. On sera un milieu hostile que les autres fuiront. On voit ça très très bien dans ce labeur affectif, cette conquête. Oui, la 16 est un labeur affectif. Et la 16 est ordonnée à quoi? Elle est ordonnée à faire que dans cette affectivité, nous ne soyons plus passifs, mais que nous ayons quelque chose à offrir. Dans la 16, on offre quelque chose à l'autre d'abord. La 16 n'est pas uniquement religieuse. La 16, c'est la conquête du milieu affectif dans lequel on est. Il est d'abord humain. Et ça s'acquiert. Celui qui reste dans une passivité complète au point de vue affectif n'acquerra jamais ce milieu affectif dont on a besoin. On accuse les autres très facilement. En réalité, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas assez accueillants. Oui. Et parce qu'on n'est pas assez accueillants, les autres ont peur. Parce qu'il faut penser que les autres aussi doivent acquérir leur autonomie. Et si vous apparaissez comme quelqu'un qui veut dominer, les autres ont peur et s'écartent. Et vous restez seul. Vous voyez, donc, le milieu biologique, le milieu affectif. Alors, vous parlerez d'éducation. Est-ce que c'est l'auto-éducation à ce moment-là? C'est plus l'éducation au sens, mais c'est quand même l'éducation aussi. L'éducation implique un travail. Vous ne pouvez pas être dans une pure passivité. Parce que la pure passivité est contraire au travail. Et donc il y a une conquête affective à l'égard des autres, à l'égard du milieu dans lequel on est. Aller plus loin, il y a l'éveil de la recherche de la vérité. Je crois que la première chose qu'on conquiert, ce n'est pas la recherche de la vérité, c'est ce côté affectif dont on a absolument besoin. Puis la conquête de la vérité. Et alors vous avez le travail intellectuel. L'éveil de votre intelligence. Vous voulez devenir intelligent. C'est-à-dire, non pas pour devenir intelligent, mais pour acquérir la vérité. Et on dit bien pour acquérir une certaine vérité. Et dans la mesure où on acquiert cette vérité dans les différents domaines où l'on a travaillé, on a une autonomie. Dans les domaines où on n'a pas travaillé du tout, intellectuellement, on est dépendant. Et on reste dépendant. Alors, on voit comment acquérir des mœurs de travailleurs. Et ça s'acquiert. Permet d'avoir une autonomie vitale de plus en plus profonde. Jusqu'à cette autonomie spirituelle qui est bonne grâce à cette autonomie spirituelle, je peux devenir de plus en plus accueillant vis-à-vis des autres. Très souvent, vous voyez, celui qu'on ne dit pas accueillant ou très peu accueillant et qui vit dans sa solitude, très souvent, c'est en raison d'un certain complexe de fragilité, de faiblesse. On est fragile. Et on sait qu'on est fragile. Alors on se défend. Le travail, c'est quelque chose qui vient de nous. C'est notre activité. Le travail, c'est le devenir qui se spiritualise, qui s'humanise et dont on a parfaitement conscience. Puisque c'est toujours à l'égard d'une matière qui a besoin d'être transformée, qui est en puissance. Le travail intellectuel, c'est net. C'est notre potentialité radicale qu'on découvre et qu'on veut conquérir dans tel domaine. Et à ce moment-là, après un long travail, on acquiert un habitus. C'est pour ça qu'il faut travailler, enfin, intellectuellement, dans les matières où on acquiert un habitus. Et l'habitus, c'est l'avoir intellectuel. Et l'habitus donne l'autonomie intellectuelle. Si nous n'avons aucun habitus, nous n'avons aucune autonomie intellectuelle. Alors c'est très gentil quand on est jeune, c'est très ennuyeux quand on commence à prendre de l'âge. Le novice, c'est très très gentil d'être complètement dépendant du contexte et du milieu et du permettre. C'est beau. C'est un novice parfait. Je me souviens très bien de la manière dont, à Notre-Dame de Lérins, on avait qualifié le novice parfait. Je n'étais pas entièrement d'accord, du reste. Mais on voyait très bien qu'une vie monastique poussée à l'extrême, le novice parfait, c'est celui auquel on n'a rien à reprocher. Il n'y a aucune ruade. On n'a rien à le reprocher. Il a tout accepté, tout avalé. Alors, attendez le lendemain. Parce que quand on acquiert quelque chose, nécessairement il y a une lutte. Il y a une lutte. C'est impossible autrement. La lutte exprime le travail intérieur. Si vous n'avez aucun sentiment de lutte, tout passe très bien. Ça coule dessus. Alors vous ne savez pas si ça coule sur les plumes du canard, sans pénétrer du tout. Ça coule bien. Quand ça pénètre, ça coule moins bien. Et la formation demande que ça pénètre pour arriver à une certaine autonomie. Forme des personnes qui sont autonomes. Humainement parlant. Et au point de vue spirituel, les dons du Saint-Esprit sont des habitus. Ce qui montre que l'Esprit-Saint veut qu'on soit un ami. Avec son autonomie et ses initiatives. Et que l'Esprit Saint ne veut pas qu'on soit un esclave sans habitus. Je me suis toujours demandé pourquoi les dons du Saint-Esprit étaient des habitus. Les automatismes sont des habitus. Eh bien, le voit là, quand vous regardez la formation de la personne, il y a une personne humaine, il y a une personne religieuse, il y a une personne divine. Et chaque fois, vous voyez que le noyau central, fondamental, c'est l'autonomie. Au point de départ pour qu'on puisse l'acquérir plus grande. Et c'est le travail qui va nous donner cela, qui va nous permettre d'avoir cela, depuis le travail manuel jusqu'au travail intellectuel, l'acquisition de l'habitus de sagesse. L'acquisition de l'habitus de sagesse qu'on acquiert en métaphysique, en philosophie. Parce que l'habitus mathématique, voyez, c'est ici qu'il faudrait faire, si on allait jusqu'au bout, de faire l'analyse de tous les habitus. Là, vous voyez ce que c'est que l'habitus, hein, parce que vous n'avez pas encore... dominante de toute la vision de Thomas d'Aquin sur l'homme, sur l'anthropologie de saint Thomas et d'Aristote. C'est l'acquisition des habitus. L'habitus aberré, avoir. L'habitus, c'est quelque chose qu'on acquiert. Aujourd'hui, on n'acquiert plus d'habitus et on remplace les habitus par les méthodes. C'est très significatif. Alors on vous donne des méthodes de travail, parce qu'il n'y a plus d'habitus. Vous voyez la différence entre l'habitus et la méthode. Odos, méthode, ça vient de odos, qui est le chemin, qui est la voie, qui est la rue. La première fois qu'on va à Athènes, on est tout heureux de trouver odos, méta odos. Vous voyez, donc c'est ça la méthode. La méthode, c'est le chemin, on vous indique le chemin. Et quand on fait le reproche, c'est le premier reproche qu'on fait à tous les étudiants, qui viennent d'ici, et quand ils vont à l'université, vous n'avez pas de méthode. Vous devriez répondre, mais ne le faites pas. Nous avons des habitus, monsieur. Et vous, avez-vous un habitus? Vous avez des méthodes. Ah. Et ça, c'est très important de comprendre ça. La méthode est quelque chose d'extérieur. L'habitus, c'est la puissance. Les puissances qui sont en nous, qui sont qualifiées par l'habitus, et qui par le fait même acquièrent une efficacité et surtout une qualité. L'habitus est premièrement une noblesse, une dignité. C'est la puissance qui se qualifie intérieurement et qui alors a un potentiel d'activité beaucoup plus grand. Alors il faut voir où il y a des habitus. Il y a un habitus de sagesse philosophique. Je parle ici au point de vue humain. Et ce qui est très intéressant, c'est que la philosophie n'est habitus qu'au niveau de la sagesse. C'est-à-dire que quand j'ai découvert l'existence de Dieu, le jour où la philosophie ne découvre plus l'existence de Dieu, elle perd sa qualité de sagesse. Et donc, elle perd sa qualité d'habitus. Et on se rattrape par la méthode. Quel est le grand-père de la méthode ? Descartes. C'est à partir de Descartes qu'il faut des méthodes. Et la dialectique est une méthode. À la place d'être, de fait, un habitus. Oui, la dialectique essaie de faire que la méthode s'intériorise par le point de vue logique. Mais la dignité des facultés, c'est l'acquisition d'un habitus. Alors, vous avez, par le fait même, cet habitus de sagesse par où votre intelligence, par où le nous, acquiert sa qualité propre. La qualité propre de l'intelligence, c'est d'atteindre la sagesse. Mais pour atteindre la sagesse, il y a un long labeur. Et même quand on a acquis la sagesse, le labeur continue. Et c'est peut-être là où je saisis le mieux ce qu'est le travail. J'en ai parfaitement conscience qu'il faut progressivement devenir intelligent et acquérir un habitus, c'est-à-dire acquérir d'une manière intérieure une qualité qui vient déterminer mon intelligence vers la recherche de la vérité et qui me donne un flair intérieur, un sens intérieur pour découvrir où est la vérité. L'habitus m'empêche de partir dans un labyrinthe où je ne sais pas où je vais. L'habitus m'empêche de prendre des voies sans issue. L'habitus m'empêche de perdre du temps en allant dans des voies sans issue, où il n'y a pas de vérité, où mon intelligence n'est plus dans son milieu propre. Et où elle ne joue plus son rôle propre, puisqu'elle n'acquiert pas sa finalité, elle devient vaine. Et on la rejette, et on va du côté artistique. On ne recherche plus la vérité, parce qu'on ne la découvre pas. On a remplacé les habitudes par les méthodes de travail. Du reste, on dit des méthodes de travail. Et on dit les méthodes de travail pour être sûr d'un résultat. Vous n'avez pas de méthode et par le fait même, vous ne saurez jamais faire une dissertation. Est-ce que la dissertation est le but de l'intelligence ? Est-ce que faire une dissertation, c'est le but de la vie de l'intelligence ? Non. La méthode, peut-être, donne une facilité énorme du travail. C'est sûr. Ça donne un résultat immédiat. Mais ça ne rend pas intelligent. Alors, voyez, on tourne l'intelligence vers l'efficacité par la méthode. Et on supprime complètement la contemplation. Le primat de la méthode fait cela. Alors je comprends très bien que pour passer des examens, il faut des méthodes. Pour passer des examens. Et on peut passer des examens en restant un imbécile. Ça c'est sûr. Normalement, les examens, c'est pour le point de vue social. Si avec le point de vue de la recherche de la vérité, on ne prendrait pas ce chemin, on n'en a pas besoin. La recherche de la vérité est en dehors de ça. C'est l'acquisition d'un habitus. Et ceci, c'est pour qu'on comprenne ce qu'est le travail et comment le travail aboutit à l'acquisition d'un habitus dans la recherche de la vérité. Le travail, au niveau affectif, aboutit aux vertus qui sont des habitus. Et le travail, au niveau physique, manuel, aboutit à l'artisanat, aboutit à l'habitus de celui qui est capable d'éduquer, capable de dresser un animal, capable de s'occuper de l'élevage des animaux. Tout ça implique des habitus. Des habitus du travail artisanal. Et enfin, dans le travail de la transformation de la matière et de l'univers, vous avez le travail artistique, dont la finalité n'est plus quelque chose de nécessaire, d'utile, mais quod placet visu. Quod placet visu, ce qui plaît à la vue. Et ce qui plaît à la vue, c'est de réaliser une œuvre belle, grande, qui forme un milieu au point de vue culture, un milieu qualitatif de culture, c'est l'art. Vous voyez, et on retrouve l'art au point de vue architecture. L'architecte qui est un véritable architecte, qui est un artiste comme architecte, qui n'est pas seulement un manœuvre. Parce qu'aujourd'hui, hélas, l'architecture, constamment, ça devient comme ça. On est commandé par une architecture. Et donc, il n'y a plus l'invention, il n'y a plus l'œuvre d'art. Elle existe encore, heureusement. Mais l'art des arts, c'est la logique. Et l'art des arts, au point de vue réalisation, l'architecte. On doit comprendre que le travail n'acquiert sa qualité parfaite quand c'est le travail qui transforme la matière, que si ce travail devient un travail artistique et qu'on aboutit à une œuvre d'art. Voyez, vous découvrez là une autonomie nouvelle. L'autonomie de l'artiste, qui est très curieuse et qui est très intéressante à voir. L'artiste, dans le monde physique, dans le monde dans lequel nous sommes, l'artiste, par son travail, a acquis une autonomie très spéciale, très particulière. Vous voyez, l'autonomie de l'artisan, c'est lié à son métier. Et c'est grâce à la qualité de son métier qu'il acquiert cela. Il est un homme qui fait des sabots magnifiques. Alors, tant qu'on met des sabots, l'artisan demeure, si on n'en est plus. Il peut peut continuer à faire des sabots pour des musées. Mais ce n'est pas le but de l'artisanal. Alors l'artisanal se transforme en un art agréable. Les sabots du dimanche. C'est quelque chose de très particulier. Vous savez, on relance des modes comme ça, n'est-ce pas ? Vous allez avoir les sabots du dimanche. Vous allez tout à fait... Les gens diront qu'ils sont tout à fait modernes. Mais non, ils ont repris les sabots, quoi. C'est toujours intéressant de regarder la mode sous ce point de vue-là. Parce qu'on voit qu'il y a des régressions. Et c'est vrai, c'est un art qui, uniquement, qui doit flatter. Et alors, très souvent, il y a des régressions. On retourne le point de vue de la qualité de la matière. C'est très bien, au point de vue artistique, on trouve la qualité de la matière. Mais ce qui est intéressant ici, et ce qui m'intéresse au point de vue de la personne humaine, c'est de voir que dans tous les domaines où l'art existe, où il y a acquisition d'un habitus, ça va encore plus loin que l'art, puisque ça va même la recherche de la vérité, il y a acquisition d'une nouvelle autonomie. Et c'est la grandeur du travail. Acquisition d'une nouvelle autonomie. Alors, comprenez bien, nous avons commencé par l'autonomie, en voyant progressivement les diverses activités de la personne, du « je suis », on trouve le travail. Comme l'activité fondamentale et l'activité qui revient au point de départ, l'autonomie. Mais ça fait le cercle. On rejoint le point de départ. Alors, le danger, c'est le travail pour le travail. On ne recherche plus que l'autonomie. On devient le clown qui a une autonomie formidable. Il suffit qu'il fasse rire. C'est sa finalité, détendre le public, faire rire les gens qui ne savent plus rire. Le clown, c'est quelque chose. Le travail, quand il n'est plus finalisé, ne nous donne plus d'habitus. C'est le travail finalisé par l'œuvre. Une œuvre nécessaire, une œuvre utile, une œuvre agréable, une œuvre bonne, qui nous fait acquérir vraiment un habitus dans ce domaine où nous travaillons. Et c'est quand le travail est finalisé qu'il augmente l'autonomie. Un travail non finalisé fait de l'homme un virtuose, c'est-à-dire un homme habile, un mécano de premier ordre pour tout. Vous voyez, il y a le mécano qui passe les examens. Il a trouvé le truc et met le professeur en boîte. Il sait très bien qu'est-ce que le professeur attend. Ça lui est bien égal de dire n'importe quoi. Et il se met dans la peau du professeur qui ne recherche pas la vérité, mais qui simplement est dans un système. Alors, vous retrouvez des virtuoses en tous les domaines. Mais la virtuosité ne donne pas l'habitus. Et alors, quel est le but ? L'efficacité. Et on en est là aujourd'hui. Hein. On en est là. Le travail n'est plus que pour l'efficacité. Et par le fait même, ne donne plus aucune autonomie. parce que ce travail n'est plus humain. Il recherche uniquement l'efficacité. Vous avez des virtuoses. La virtuosité est une habileté. Vous pouvez vous adapter à n'importe quoi, mais vous n'avez plus la qualité de l'habitus qui donne l'autonomie. La virtuosité prépare un peuple d'esclaves qui sera incapable de se conduire lui-même et qui n'aura plus aucune personnalité. Ça, on peut le dire au plan philosophique. On en est certain. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le travail, aujourd'hui, ne donne plus à ceux qui travaillent l'autonomie. Pourquoi ? Parce que ce travail n'est pas finalisé. Alors il n'est plus humain. Et c'est au fond ce que le Saint-Père a montré dans son encyclique sur le travail. Quand il montre que le travail n'est plus humain, quand le travail n'est plus humain, il n'est plus finalisé et ne donne plus d'habitus et donc ne donne plus d'autonomie. Et alors ça, c'est très grave. Parce que si le travail est l'expérience la plus fondamentale de l'homme, comment pouvons-nous sauver une humanité qui est entièrement tournée vers l'efficacité et où le travail n'est plus humain? Le travail qui devrait former l'homme en lui donnant une autonomie toujours plus grande et une intelligence qui lui montre sa finalité. Quand vous avez un travail qui n'est plus humain et qui par le fait même n'est plus finalisé, c'est l'efficacité. Et l'efficacité n'a pas de fin. On cherche à être de plus en plus efficace, c'est-à-dire à réaliser avec le moindre de temps quelque chose qui au début on réalisait très lentement. Vous voyez, la vitesse dans l'efficacité, c'est la qualité de l'efficacité. L'efficacité n'a pas de finalité en elle-même, mais comme c'est à l'intérieur du devenir, la qualité du devenir et du mouvement, c'est la rapidité. Alors un monde efficace cherche à aller toujours plus vite, sans voir que cette efficacité détruit le rythme de la vie et de la vie humaine. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Un homme qui veut arriver à un certain résultat aujourd'hui, émerger, la survie, travaille comme un fou. Alors, qu'est-ce qu'il a ? C'est le cœur, c'est les nerfs, c'est l'harmonie humaine qui en prend un grand coup et qui fait qu'on devient un robot. Et à ce moment-là, on n'a plus aucune autonomie humaine. On devient totalement relatif aux autres et dépendant des autres et dépendant du système économique. C'est lui qui ordonne tout et porte ses impératifs de plus en plus fort, puisqu'il faut aller toujours plus vite. Mais il y a une espèce d'engrenage qui fait qu'on est entraîné. Vous voyez, c'est la destruction du travail. Et la destruction du travail, c'est terrible. Parce que comme l'expérience du travail est l'expérience humaine fondamentale, par où je découvre le réalisme premier, fondamentale. Cette destruction du travail détruit l'homme quant à son intelligence et quant à son affectivité. Et le travail appelle le travail pour aller toujours plus vite. L'efficacité appelle l'efficacité, puisqu'il n'y a pas d'autre finalité. Alors, on comprend comment, à ce moment-là, la personnalité humaine perd son autonomie. Et si elle perd son autonomie, elle perd sa source fondamentale et première. Et alors, elle cherche une autonomie fallacieuse, qui n'est plus une autonomie réelle. Elle cherche l'autonomie dans l'indépendance, qui n'est pas l'autonomie. Elle cherche l'autonomie en se coupant de toute finalité, de toute responsabilité.